bonjour et bienvenue, cela s'appelle un plantage de piste. Nous sommes donc le samedi 5 avril 2008, il est midi.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
J'ai pas l'habitude de la nouvelle disposition des pistes. Bonjour et bienvenue, c'est Éphémère s'invite dans vos oreilles aujourd'hui avec, pour commencer... voilà, je me suis planté
maintenant.
Je me suis encore trompé, le supplément week-end.
Suivi 2.
Ça c'est du sport. Et ensuite, je ne sais pas, la grille des programmes est effacée, c'est n'importe quoi. C'est normal, je me disais aussi, on faisait pas les 1er avril quand les invités étaient là. Maintenant je sais pourquoi, ce serait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop traumatisant pour eux. Bonjour Thomas.
Bonjour Xavier. Alors là, les auditeurs n'ont pas l'image, donc ils ne peuvent pas te voir en train de frimer avec ton nouveau gestionnaire de jingle.
Oui, mais pour l'instant, c'est un petit peu loupé. J'ai des reflets partout, donc je vois pas les niveaux sonores. Donc c'est un peu la catastrophe. Heureusement, du sport arrive, et comme à FMR, on est obligé d'arriver avec notre propre équipement, il est arrivé avec une lampe. Voilà, parce que sinon on voit rien.
Donc, on est au côté obscur aujourd'hui.
Aujourd'hui, voilà, les halogènes et les plafonniers ont grillé en même temps. Supplément week-end numéro 152, Before Night Falls, c'est le nouveau Zombie. We'll be right back. Before Night Falls, Zombie Zombie. Vous retrouverez plus dans les fonds sonores. Chers amis, bonjour. Et du sport dit, oh, c'est un grand, c'est un maître qui nous a quittés.
Bonjour.
Ils en parlent même dans l'équipe. Alors qu'ils auraient pu parler, je sais pas, par exemple Thierry Gilardi et tout ça, mais ça, à la limite, on s'en fout.
Si, il y en a eu. Hein.
Pourquoi tu dis qu'ils en parlent même dans l'équipe? Le mec, il s'est fait connaître par le grand public, par l'équipe magazine quand même. Hein.
Ouais, enfin bon, il collaborait, avant de collaborer à l'équipe, il collaborait déjà à d'autres journaux. Et donc, c'est ce qui a fait justement qu'il est. C'est également un sportif, hein, faut dire que il a été rugbyman et il a joué au PUC. Hein, puisqu'il est né dans le coin là-bas, et donc c'est pour ça qu'à un moment donné, quoi, il y avait cette histoire de Stade Charletti qui devait changer et tout, le PIC jouant au Stade Charletti, et donc systématiquement dans le dessin de la semaine de l'équipe magazine, t'avais chaque fois, tu fallait regarder, il y a toujours un petit coin, il y a marqué Charletti moins temps et temps de jour ou moins temps et temps de pour la destruction programmée du stade de Charletti et la reconstruction d'un nouveau stade. Et là, c'est assez rigolo, quoi. Et c'est le bonhomme qui a commencé à faire le dessin humoristique de la semaine dans l'équipe magazine quand l'équipe magazine est apparue, c'est-à-dire au début des années 80. On va, je crois que c'était en 83. Ou en 84, au départ il y avait rien, et en 85 je crois il a apparu le premier dessin humoristique donc de Blachon, et ça allait devenir vraiment la référence et tout, quoi. Je me rappelle qu'à une certaine époque et tout, on commençait par
Moi,
magazine
pareil,
par la dernière page,
moi pareil,
c'est-à-dire par la page de Blachon, logique et normal, et vraiment il y avait des moments où il faisait très très fort, un dessin un petit peu caustique, cruel des fois carrément, hein, c'était vraiment, enfin c'est toujours, hein, parce que ces dessins ils restent. De toute façon, dernièrement, il avait également fait plusieurs bouquins pour les enfants, des livres pour les enfants. Donc,
il a eu des dessins sortis aussi dans les publications Mickey, il me semble.
Voilà, ouais, c'est ça. Il collaborait également à d'autres revues. Mais on se souviendra surtout de lui, hein, pour ce qu'il a sorti à propos du sport, donc dans l'équipe magazine.
Ok, je tiens à dire que nous avons des breaking news.
And now, the news.
Et tout de suite, les news présentées par Xavier.
Bonjour. Dans son infinie sagesse, le très saint et très haut CSA, Comité supérieur à l'audiovisuel, vient d'officialiser le mariage entre Booster FM et FMR. Et ceci pour au moins 5 ans. Les bancs sont publiés, nos studios sont déjà l'un à côté de l'autre, et nous, normalement, nous aurons une belle et jolie nuit bleue le 19 mai au soir, où toutes les radios sont censées s'éteindre pour 4 heures, le temps pour elles de recaler les émetteurs pour rejoindre leur nouvelle fréquence. Sauf que Radio FMR reste ancré sur 89.1 MHz, ce qui veut dire que notre fréquence ne bouge pas, et que vous retrouverez dessus le supplément week-end, que notre créneau horaire normalement ne devrait pas bouger, que nous pourrons gentiment demander à nos aimables collègues de Booster si on pourrait exceptionnellement disposer d'un studio complet et propre, que nous arrêterons de bâcher nos actuels prédécesseurs de Radio, premier sur l'amateurisme sérieux. Oui, tout à fait. Et là-dessus, un très bon film de Jesus Franco qui est malheureusement peu connu. Et que nous aurons sûrement aussi des émissions avant midi sur la même fréquence que nous. Que par la même, vous venez peut-être d'entendre pour l'une des dernières fois Fred Rabol nous dise Bavarichos Ketrash. Et donc la toute dernière fois, le samedi 18 mai 2008 à exactement midi, ce qui sera une deuxième mort quand même pour cet immense conducteur d'artistes de beau Danube bleu, on va dire. Hein. Et ceci après plus de 10 années de bons et loyaux services d'ouverture, de séparation d'antenne entre Radio et FMR. C'est triste. Heureusement, tout le monde s'en fout. De toute façon, nous, on va continuer comme d'hab.
Non, je voulais quand même te dire que bon, toi, t'arrêtes pas de taper sur eux parce qu'ils sont juste avant toi.
Et ils sont cons.
Mais ouais, c'est quand même une émission que j'écoute à la semaine. Quand même.
Enfin, ceci dit, pas trop de quoi rire parce que après on verra si il va falloir déménager les studios et là ça va être pénible. Enfin bon, je pense qu'on va entamer les sorties bande dessinée. Ça tombe bien, je vais te sortir le fond que je venais de caler. Donc
y a pas de quoi rire là-dedans. grâce à eux.
On va entamer sortie bande dessinée avec Yves Saint au scénario et André Julliard au dessin, d'après l'œuvre de Edgar Pierre Jacobs, s'il vous plaît, Black et Mortimer. L'épisode numéro 18 s'appelle Le Sanctuaire du Gondwana et donc vient de sortir chez Black et Mortimer Édition. Après son aventure mouvementée entre l'Antarctique et l'exposition universelle de Bruxelles, Mortimer se sent un petit peu raplapla et est mis en congé maladie par son médecin. Et d'ailleurs, conseille à l'inventeur de l'Espadon d'écrire ses mémoires, puisque justement, il en parlait depuis des années. Ah, ses aventures en Égypte, son enfance dans les Indes. Pendant ce temps, se penchant sur les ruines ramenées du grand continent froid, lors des sarcophages du sixième continent, l'assistante Natasia découvre que les roches ramenées de l'Antarctique sont incroyablement travaillées et vieilles, preuve de l'existence d'une civilisation très avancée dont les motifs ressemblent très fortement à ceux de vestiges retrouvés en Afrique. Le professeur s'y intéresse comme archéologue amateur pour retrouver une connaissance d'enfance désormais veuve. Alors que Black travaille sur un projet de sous-marin des glaces, qui aurait pu croire que des vieilles pierres allaient encore entraîner le professeur Mortimer, convalescent dans d'autres formidables aventures. Plusieurs choses à dire d'abord sur Black et Mortimer. Bon, c'est savoir que Yves Saint est un jeune scénariste, il en est qu'à son quatrième scénario, qu'il a commencé par un Black et Mortimer, et que c'était plutôt culotté, et finalement tout le monde a trouvé que c'était pas mauvais. Et là encore une fois, il est pas mal, hein, le rebondissement final est vraiment très très bien. Mais comment dire ? D'abord, il y a le graphisme d'André Julliard, le créateur des Sept Vies de l'Épervier, du Cahier Bleu. C'est un dessinateur qui est nettement meilleur que celui qu'a été Jacobs, du moins à l'époque des Colliers de la Reine, de la Marque Jaune et tout ça. Or, le problème, c'est qu'il dessine trop bien les femmes. À se demander si les femmes que l'on voit dans l'histoire font effectivement partie du même univers que les héros-titres. Les positions figées, théâtralesques de stupeur, horreur, complotage et autres combats sont progressivement sorties de l'opéra de papier de Jacobs, qui fut baryton et donc connaissait justement bien le genre lyrique. Quoi qu'on a un joli clin d'œil à la Marque Jeune, et c'est pas le seul d'ailleurs, il faut ouvrir l'œil. Pour comprendre la blague, l'opéra de papier, c'est la biographie, écrite en collaboration avec Jacobs. Donc on a toutes ces positions figées qui disparaissent puisque les positions sont un petit peu plus naturelles. Et là, à partir de là, on se dit, on perd le côté un petit peu désuet. C'est quand même un petit peu dommage. Car Jacobs n'avait pas l'équivalent de la loi de 1949 en Belgique, celle de la protection de l'enfance dans les publications destinées à la jeunesse. Plus prosaïquement, on pourrait plutôt parler de censure envers les comics. Mais n'a jamais réellement mis de femmes en avant dans les aventures. Bon, c'était loin d'être aussi castré que les aventures de Tintin, mais la misogynie était quand même visible. Ce qui justifie un peu, parce que quand même, bon, Black et Mortimer, société anglaise, post-guerre, voilà quoi, hein, chaque chose a sa place, comme on disait à l'époque. Or, dans le précédent tome, nous apprenions que Mortimer a connu l'amour dans sa jeunesse. Et là, le coquin Flip retrouve une autre petite amie d'adolescence. Ensuite, la disparition des narratifs qui étaient en écho au dessin. Et pour cause. Black et Mortimer étaient prépubliés dans un hebdomadaire, le journal de Tintin. Et il fallait régulièrement résumer les actions des épisodes passés. Genre, quelle est donc cette ombre mystérieuse qui a pénétré par effraction dans le domicile du Capitaine Black ?
Ah ouais, c'était lourd.
Vous le saurez jeudi prochain. Alors oui, certains trouvaient ça lourd. Il y en a d'autres qui trouvaient que c'était sympa parce que du coup, comme on prenait beaucoup de temps à bien regarder les planches, puisque justement, ben, on appréciait
on avait,
quand même.
On avait la semaine ou voire plus, quoi.
On avait la semaine ou voire plus, on mettait un post-it, non, on avait le résumé. Quoi. On avait le résumé, c'était quand même agréable, quoi, entre nous. Après, c'est vrai que dans la Marque Jaune, au bout d'un moment, ça tassait un peu. Qu'est-ce qu'il y avait encore dans les Météores aussi, c'était franchement tassé. Les trois formules du professeur Sato, justement, c'était un petit peu plus aéré. Des fois, c'était un petit peu lourd. Mais Yves Saint n'a pas oublié d'être un bavard. Et certaines bulles sont de véritables tartines à texte, à tel point que les libraires m'ont dit « Oh non, mais t'arriveras à lire, toi ? Non, mais t'as vu la dose de texte qu'il y a ?» Et c'est là où tu leur dis « Bah, relis les Marques Jaunes, hein, t'en avais autant. » Yves Saint au scénario, André Julliard au dessin, Blake et Mortimer. L'épisode numéro 18 s'appelle Le Sanctuaire du Gondwana. C'est chez Black & Mortimer Edition, évidemment, une spin-off de Dargo. Et bon, si vous aimez les trucs old school, c'est à lire, ça fait toujours plaisir. Si vos parents ont apprécié une époque Black & Mortimer, ils vont se dire « Ouais, mais c'est pas exactement comme avant, il y a ci, il y a ça. » Mais ils retrouveront avec plaisir quand même l'un des très très grands personnages de la Franco-Belgique des années 50-60, entre nous. Après, je sais pas, du sport, oui, non, bon, d'accord.
J'ai jamais été fan de Black & Mortimer, de toute façon. Je trouvais ça toujours trop bavard. Oui, alors, on voit Mortimer en train de descendre dans un couloir. Et pendant que Mortimer descendait dans un couloir... C'est tout le temps pareil. En plus, y a toujours, tu sais toujours que le méchant, c'est Ulrich à la fin. Alors, bon, ça saoule, quoi. Désolé si j'ai froissé des gens. Hein.
Là. Mais non, mais Ulrich, c'est un vrai méchant, impur, indur.
Ouais.
Continue avec un truc un petit peu plus, enfin un petit peu moins, enfin quelque chose d'autre, enfin quelque chose qui va plaire à Thomas, avec, je peux le dire ?
Je m'attends au pire.
Avec une manga ?
Non, tu peux pas le dire.
Bon d'accord, ok.
C'est un manga.
Là, c'était le gars de la semaine dernière, et je sais, l'émission n'est pas encore en ligne. D'après le dessin animé du studio Bones, Jinsei Kataoka au dessin et Kazuma Kondo, Eureka 7, le premier tome vient de sortir chez Kana. Renton est un collégien élevé par son grand-père qui s'ennuie ferme. On parle de son père, Hard Rock Thorston, dans les livres d'histoire comme un héros qui a su résoudre le problème des courants de Trafar. Mais le jeune homme est plus passionné par Holland que tout le monde voit comme un traître, car Holland a abandonné l'armée pour créer un mouvement rebelle.
Le PS ?
Et c'est aussi un champion du surf sur Tatar, une substance éthérée qui a bouleversé les civilisations terriennes. Thomas, là, tu deviens dur. Un jour, un robot combattant va s'écraser sur la maison de Renton, conduite par une très jolie fille. Celle-ci fait en fait partie de cette rébellion de la Surf Generation et va entraîner le gamin dans la bataille. Renton en sera d'autant plus heureux qu'il a eu immédiatement 1. Le coup de foot pour la belle Eureka et 2. Il va en plus rejoindre ses idoles. Ouais, je vais faire du skate en grand robot, mecha et tout. Mais les scènes de fanservice qui avaient tout pour émoustiller le John Renton auront un goût amer quand il apprendra que la jolie Eureka a des enfants. Nom d'un poil de puceau. Quand Macross Robotech croise Point Break, ça donne une série improbable où des méga robots aliens domestiqués, ah oui, Neo Genesis Evangelion, voici, hein, j'ai oublié de dire, font rêver des ados fans de skate qui lisent des revues de surf publiées par une organisation rebelle. Expression de skater pro mélangée à des abréviations militairement taillées en trois lettres, on se retrouve ailleurs. Oui, cette série est promise à un beau succès, mais pourvu que l'univers soit beaucoup plus profond qu'un bête mixage entre 2-3 ingrédients qui marchent toujours bien. Parce que sinon, on en parlera vite comme un crossover entre Bryce de Nice et Goldorak. Et là, évidemment, ça nous fera plus rire du tout. Poème de la planète Eureka 7 est disponible en DVD chez Biz Entertainment et je ne suis pas sûr que le jeu PS2 ait été distribué en France. Et donc l'adaptation du dessin animé des studios Bones, dessiné par Jinsei Kataoka et Kazuma Kondo, Eureka 7 numéro 1, vient de sortir chez Kana. Quant au genre gag sur le surf, on compte déjà Frankie Snow, Total Maîtrise, Crazy Trip, ça fait déjà beaucoup. Et pour être complet, je tiens à signaler que le coffret intégral collector Platinum Neo Genesis Evangelion, image refaite, c'est-à-dire sans les sautes d'image entre chaque changement de plan, vient de sortir chez Dynamique, chez D-Bex, excusez-moi, en coffret. Ce qui paraît un gros coffret à 4, enfin bon voilà. J'espère que j'ai été complet.
Alors attends, toi qui te moques des geeks qui sont, ou plutôt des otaku qui sont fans d'Evangelion, je me permets d'annoncer une info qui est sortie sur DVDrama cette semaine, à savoir qu'il y a une nouvelle édition du...
Je viens de la dire.
Non, non, un putain de packaging de sa mère, de sa race.
Oui,
de...
A4.
Voilà,
énorme.
De Ghost in the Shell Standalone Complex saison 1.
Oh merde!
Avec un putain de d'artbook avec que des dessins de 200 pages dedans.
Ah! Bon, c'est toi qui vas te le payer de toute façon.
Je sais pas.
Moi non, il n'y a plus la place.
Ce gouvernator.
J'ai encore du mal à gérer entre le PC et les trois lecteurs CD, mais je vais y arriver.
Walter Simonson au scénario, Ludo Lulabi au dessin, World of Warcraft, tome 1 sur 6, en terre étrangère.
En terre étrangère. Donc c'est une nouvelle série qui vient de sortir chez Soleil, où Rhaegar est un entraîneur spécialisé dans le combat d'esclaves. Il vient de perdre son meilleur gladiateur.
Son clan.
Un orc taillé à tuer, avec une belle collection de têtes de vaincus à son actif. Les deux elfes qui lui restent pourraient bien se retrouver comme amuse-gueule lors des prochains combats de
H-Trip.
Mais heureusement, un humain échoué et amnésique va compléter sa troupe. Il a su tenir en respect un crocodile monstrueux qui lui laissera un nom. Appa Croco. Note, c'est mieux que
Sucette Gouviande
ou encore
Justin Brideau.
Mais ça n'engage que moi. Avec deux elfes qui se font la guerre, l'improbable trio saura-t-il briller sur le sable de la reine cramoisie et en ressortir vainqueur ou tout du moins
vivant.
Avec un titre pareil, on s'attend à deux choses. 1. Pas de finesse. 2. Pas de survivant. Car World of Warcraft est non seulement le principal facteur de perte de temps de la jeunesse actuelle devant un PC pour jouer en ligne, aussi dit système de monde persistant qui sert principalement de camouflage pour une interface 3D de chat online, mais c'est surtout j'en connais d'autres, des jeux comme ça, par exemple il y a un jeu français comme ça, mais c'est surtout un jeu objet de sanglantes bastons, seul sport pratiqué en chambre par des hordes de no life. Point très important, le graphisme semble un peu rapide. Et pour cause, cette bande dessinée est dessinée par Ludo Lulabi, qui est un dessinateur français d'inspiration manga, et d'abord sortie comme comics aux USA, chez Wildstorm, s'il vous plaît, où elle aurait, je me base uniquement sur les chiffres communiqués par l'attaché de presse, comme quoi c'est de très bons chiffres. Note qu'avec une licence pareille, je veux dire celle de World of Warcraft, ce serait difficile de faire un four. Quoique... Je crois que si, il y a eu Tomb Raider qui a été un four. Mais il manque ce qui fait la signature des séries de Medieval Fantasy chez Soleil. Comment c'était déjà
Femme chat avec des gros nichons, non? Ah oui, il y en a, j'en ai vu là-dedans.
Donc c'est pas ça. Ah oui, je sais, l'humour. La patte de Scott Charleston. Ah, quel dommage. Bon, allez, je vous laisse. Mon ratio et tripage temps de jeu tend actuellement dans le mauvais sens. Il faudrait vraiment que je rentabilise mon abonnement à ce jeu. Walter Simonson au scénario, Ludo Lulabi au dessin. World of Warcraft tome 1 sur 6 en terre étrangère. Ça vient de sortir chez Soleil. Les sorties bande dessinée ne sont pas finies. Midi 25 minutes sur la poubelle des radios et c'est Thomas qui enchaîne.
Oui, tiens, tu aurais pu laisser le du Conan derrière parce que ça allait pas mal. Non, maintenant c'est chinois. Hein. Alors c'est Seven Brothers, tome 1, Fils de l'Enfer. Avec.
Fils de l'Enfer.
Ouais. Avec une histoire originale de John Woo.
Ouais.
Tiens, montre la BD à du sport, tiens. Donc, juste pour l'info,
il
va c'est
rester longtemps dans mes doigts.
Juste pour l'info, c'est ce que Sabrina m'a offert pour la Saint-Valentin. Donc merci Sabrina.
Ça c'est un cadeau de Saint-Valentin.
Voilà, donc histoire originale de John Woo, scénario de Garth Ennis et dessin de Jivan Kang.
Garth Gore Ennis.
Oui, tout à fait.
Avec John Woo.
Oui, oui, oui.
Putain, mais ça doit être une tuerie, ce truc.
Donc c'est non, alors avant c'est édité chez Fusion Comics, qui est la collaboration entre Panini et Soleil, et ça raconte justement. Eh bien, tu peux t'attendre quand tu vois l'histoire originale du John Woo, alors du gunfight, les Mexican standoff, amitié virile, chevalerie.
Un Mexican standoff, il faut y expliquer ce que c'est. Hein.
C'est le Mexican, c'est le d'après le flingue, hein, le flingue. Et le Mexican standoff, c'est quand trois personnes ou deux personnes se braquent systématiquement la gueule avec leur flingue, chacun de son côté, et il y a pas de coup qui part. Voilà, c'est ça. C'est les gens qui sont hiératiques avec leur flingue. Et on peut s'attendre à ça, mais pas du tout. Il y a 600 ans, bien avant les grands explorateurs devenus célèbres, les Chinois les avaient déjà tous coiffés au poteau. Un sorcier appelé Fils de l'Enfer accompagnait ses navires pour les protéger des éléments, en profitant au passage pour cacher aux quatre coins du globe des pierres magiques censées lui donner le contrôle de la planète. Sauf qu'il n'a pas fini son ouvrage. Wong, son apprenti, perça à jour ses plans maléfiques. Et afin de le contrecarrer, il mit enceinte, sept femmes partout dans le monde. Ses descendants hériteraient chacun d'une partie de son pouvoir. De nos jours, une femme mystérieuse réunit...
En clair, une pute dans chaque port, quoi.
Grosso modo. Ouais. De nos jours, une femme mystérieuse réunit, comme par hasard, sept hommes au pouvoir très spéciaux. Mais quel est le lien qui les unit tous? Donc, ça peut aller de l'ouïe super développée, la rapidité comme l'éclair, la vue supersonique, la voix qui fait... Je me suis embrouillé dans mes adjectifs. Et au rayon X, voilà, tout ça. Et donc, on se dit, ouais, John Woo, y a pas de flingue, en fait, dedans. Il n'y a que des pouvoirs avec des sorciers de partout. Et le principal reproche qu'on pourrait faire à cette BD, c'est que c'est un peu trop bande-annonce, en fait. C'est juste une esquisse rapide des persos. C'est juste au détour d'un dialogue, la personne a dit ouais, toi t'es capable de ça, toi t'es capable de ça. Et en fait, les personnages, les héros, ils passent tout le premier tome, et franchement sans exagération, autour d'une table en train d'écouter. Donc voilà, tout un tome sur des personnes en train de parler autour d'une table. Parallèlement, on voit, évidemment, le gros sorcier qui a été presque vaincu par son apprenti, parce que l'apprenti s'est démerdé pour sacrifier et pour faire tomber le plafond d'une grotte secrète sur la gueule du méchant. Mais on sait tous qu'il en faut plus pour buter un sorcier. Donc évidemment, ce qui devait arriver arriva, le sorcier se réveille. Haha.
Coucou.
Voilà.
Tel le Raymond Barre.
Alors évidemment, quand on connaît Garth Ennis, si on a surtout lu Preacher avant, ça nous surprendra pas de voir par exemple un découpage assez rigolo comme à un moment donné il y a la nana et dit ouais,
tu parles pas des découpages de planches, hein, tu parles de découpage.
Le découpage de planches, ouais. Et la nana elle dit Fang sauva le monde, c'était trop beau, il s'est sacrifié et tout, et puis la case d'après, il y a un mec, un Yankee qui marche sur un crâne, évidemment c'est le mec qui s'est sacrifié, c'est qui ce mec? On s'en branle. Alors justement, tiens, du sport, il est là. J'ai mis un marque-tapage dedans pour retrouver un dialogue qui m'a fait bien rigoler. Alors attends, est-ce que mon marque-tapage s'est cassé?
Non, il est là.
Il est là? Attends, il est où? Ah oui, j'ai retrouvé.
Grand moment direct. Ah, magnifique. Ah,
c'est bon, j'ai retrouvé. Donc il y a le... Tout, comme tout bon méchant sorcier qui a des pouvoirs incommensurables lui dit haha, je vais tout péter. Mais il peut pas dire je vais tout péter, en fait c'est beaucoup plus grandiloquent. Il dit: ce monde m'appartient de droit, c'est une dette que le destin a envers moi et dont un pauvre fou a empêché le remboursement au temps jadis. J'ai décidé de prendre ce qui me revient. Je planterai le dard de ma colère dans cette catin infâme qu'est Dame Fortune. On tourne la page. Et quand je le ferai, ce monde me servira de préservatif.
Donc voilà. C'est du Garth Ennis, effectivement.
Voilà. Donc c'est les beaux dialogues bien burnés qui parsèment la BD. Bon, la BD, j'ai commencé par le reproche, mais il faut quand même avouer que du côté graphique, bon, ça va, ça se tient. Même si on pourrait reprocher qu'il y ait quand même des inégalités dans le trait, parce que le mec, il a un trait très expressif et il a aucune volonté de lécher le dessin, justement, c'est pour laisser apparent les coups de brosse et tout. Et c'est vrai que des fois, ça peut paraître super bien, par exemple comme chez Benjamin, hein, et là, sur certains cases ça peut paraître bien, mais sur la même page tu peux avoir aussi des cases qui paraissent complètement bâclées pour la même raison, c'est-à-dire voilà, le mec il est le sorcier, super pouvoir, super rendu et tout, et après t'as une espèce de grotte derrière avec juste des traits pour faire les piliers, mais c'est quoi. Et d'autres fois il y a des par exemple on sent que le mec a travaillé d'après une photo pour faire des paysages de neige, et pour que ça s'intègre bien avec le reste, en fait il a badigeonné de traits grossièrement faits sous Photoshop par-dessus. Bon,
on n'a pas déjà sacrifié sur l'autel de la critique un français pour ça?
Ah, Boilé?
Non, un autre là.
Vidal?
Non, on a oublié son nom d'ailleurs. C'était à propos d'un truc de SF en janvier dernier.
Ah oui, oula, non, ça n'a rien à voir là, c'est quand même un peu plus classe quand même. donc voilà, Seven Brothers, ça promet, parce que surtout que pour l'instant on n'a pas vu encore les super pouvoirs. Hein. Donc même si on est au courant de ce que les gens peuvent faire, parce qu'il y a 7 guerriers qui ont des super pouvoirs, et on sait tout ce qu'ils peuvent faire à part un, on sait pas quel est son pouvoir. Mais les écrits ancestraux disent attention, il faut surveiller sa lignée parce que le mec est super important. Et à la fin, aux dernières pages, il dit ouais, mais en fait, en ce moment, je fais un rêve récurrent et je sais pas trop ce que c'est. Et c'est fini comme ça. Donc, Seven Brothers, pour les adorateurs de John Woo et de ses films, c'est totalement différent. Faut pas aller se précipiter sur cette BD en sachant que c'est John Woo qui est derrière. Hein. Ça a rien à voir avec son univers. Donc, plutôt pour les amateurs de Garcenis et de, on va dire, de grosses histoires avec des sorciers chinois et puis des super pouvoirs. Donc voilà, Seven Brothers, d'après une histoire originale de John Woo, scénario de Garcenis, dessin de Jivan Kang. Le tome 1 s'appelle Fils de l'Enfer et c'est chez Fusion Comics.
Merci, et il y a la régie qui arrête pas de me secouer derrière. Oui, je sais, il est midi et 33 minutes, donc un petit peu de publicité.
Vendredi 11 avril, Rock in Toulouse, Tremplin Rock Intergrandes Écoles au Café Rex. L'ENAC, l'IEP, l'ICAM, l'INSA et l'ESC présentent leurs champions avec Enroll, The Fools, Decalcomanes, Pierre Plana et le groupe et les Playboys, que le meilleur gagne. C'est 4€ en pré-vente et 5€ sur place. Pour gagner quelques places, contactez bruce@radio-éphémère.net. Vendredi 11 avril au Café Rex, 15 avenue Honoré Serre à partir de 20h. Le tremplin rock Intergrandes Écoles est soutenu par la Banque Populaire et Toulouse 2013.
Éphémère. Il est beau, hein, du sport. Attends, mais il y a une chose que t'as pas vu, c'est ce qu'on peut mettre dedans.
Spot, I'm thinking of.
s'appelle le Rickrolling. Et c'était un sketch qui a eu lieu. Si c'est Rickrolling, mais le chanteur c'est Rick Astley. Le ouais, morceau c'est Never Gonna Give You Up.
Ouais, c'est Rick Astley, ouais.
Voilà. Et le gros gag, c'est que le gros gag s'est fait pendant 3 mois sur le net. C'est oh regarde, j'ai trouvé une vidéo trop marrante sur YouTube et tu envoies quelqu'un et en fait c'est un clip de Rick Astley. Et YouTube a trouvé le sketch tellement amusant, ils ont remplacé toutes les vidéos qu'il y avait en une le 1er avril par cette vidéo là. Il avait impossible d'aller sur YouTube. On peut prolonger l'expérience, une extension à Firefox, donc si jamais vous avez des gens que vous appréciez pas trop, vous pouvez leur faire en sorte que chaque fois qu'ils vont glander sur YouTube, ils tombent que sur ce morceau. C'est salaud, hein, entre nous.
Ouais, ouais, Rick Astley qu'on a retrouvé plus tard dans une série qui est l'un des fleurons de la série soap anglaise EastEnders.
Non, putain, c'est... Non, c'est vrai ?
Ah oui, oui, dans les années 90, oui. Parce que là, c'est quand même un morceau...
J'étais pas sûr.
Quand même un morceau qui date des années 80.
91. Hein. 90-91, voilà. Mais surtout, ce qui est très très amusant, c'est de voir que, un, on ne fait plus les sketchs du 1er avril avec les invités sur le plateau. Ça pourrait franchement leur faire peur. Et secondo, ça devient de plus en plus coûteux à préparer.
Ah non, mais ils ont peur déjà, normalement. Hein.
Heureusement, on va revenir à quelque chose de sanglant, de saignant, une ambiance d'arrachage de bras, une ambiance SF noire, un polar psychologique. Thomas va nous parler de Horton. La chronique grand écran, parce que c'est vrai que celui-ci est un peu petit quand même pour mater la vidéo, vous est présenté par Thomas en Dolby Mono Surround.
Ouais. J'ai cru que tu allais poursuivre dans la veine conanesque de...
Non, quand même pas.
Alors, Horton, non, ce n'est pas du tout un film sur le découpage et l'arrachage des bras. En fait, c'est un film d'animation de Jimmy Hayward et Steve Martino. Et c'est produit par la Fox. Les films 3D de sortie par la Fox, c'est L'âge de glace, c'est Robot, voilà. Et c'est d'après l'œuvre de Docteur. Alors comment on le prononce? Sus, je sais pas quoi. Docteur Sus, l'auteur qui avait inspiré le Grinch et également le Chat Chapoté. Alors c'est l'histoire d'un éléphant qui barbote dans l'eau. Voilà, il met ses grosses oreilles sur la tête pour se faire un bonnet de bain et tout. C'est super rigolo. Et il barbote dans l'eau au milieu de la jungle. Soudain, il entend une petite voix. Et cette voix vient d'un grain de poussière. Il s'aperçoit qu'il peut communiquer avec cette voix qui appartient au maire de Zouville. C'est un petit monde à l'intérieur de la poussière avec son architecture, ses machines, ses habitants. Et Horton, malgré la désapprobation d'une kangourou hostile, et c'est quand même la bad guy du film, va entamer un périple pour mettre la poussière à l'abri. De son côté... Le maire de Zouville est bien sûr lui aussi pris pour un fou, car personne ne veut se barricader et louper ainsi les grandes fêtes de Zouville. Donc vous l'aurez compris, c'est complètement barré hein, le concept, puisque c'est un éléphant dans la jungle qui essaie de prendre soin d'une petite poussière qui s'est posée sur une fleur pour essayer de la mettre à l'abri, pour éviter que la ville dans la poussière en fait se fasse exploser la gueule. Et la kangourou ne l'entend pas de cette oreille parce qu'il dit c'est quoi cette illuminée, il faut pas d'illuminée dans la jungle, c'est moi qui la chef et tout. Donc elle va charger un espèce de vautour qui s'appelle Vlad et qui parle avec un accent de vampire pour essayer de mettre la main sur la poussière. Et alors on voit que à part Horton dans le
ouais,
monde
on voit d'où viennent les scénarios de Man in Black.
Oui. Et donc à part Horton dans la jungle, le monde de la jungle par rapport au monde de Zouville, il fait un peu palichon, puisque évidemment le grand intérêt du film c'est Zouville, avec cette architecture complètement zarbi que n'aurait pas renié Tim Burton. Le maire, c'est le père d'une famille très nombreuse, avec il a au moins 90 filles et un petit garçon. donc c'est un monde haut en couleur, avec que des gueules pas possibles, rigolotes et tout. Alors que bizarrement, le monde de la jungle, à part Horton, peut-être ses petits amis, il y a une espèce de boule de poil qui arrête pas de rire bêtement et elle parle pas. Donc ça va amuser aussi les gamins. Le reste, en fait, il y a pas mal de déchets dans le caractère design, surtout les kangourous, tu sais pas trop à quoi ils ressemblent, c'est quoi ces créatures, super antipathiques.
Les studios de la Fox, ils ont pas été très forts en général hein, sur le design.
Faut dire que l'âge de glace, c'est quand même, ça tabasse au niveau caractère design.
Mais c'est le seul.
Robot, j'ai pas vu.
Ce qu'ils ont produit.
Et non, j'ai pas vu Robot et le reste.
Robot, c'est pas top non. Top quoi, on va dire, mais niveau dessin, c'est quand même pas mal. Hein.
Ouais.
Franchement.
C'est le principal reproche du film, c'est l'inégalité dans le caractère design. Ensuite, au niveau des aventures, c'est l'inverse de Pixar, si vous voulez. C'est-à-dire qu'au départ, Pixar, tu dis, c'est un film qui s'adresse plutôt pour les petits, c'est rigolo, avec des jouets, des voitures, des fourmis. Puis après, au fur et à mesure qu'il y a le film, tu dis, mais c'est complètement barré, ils ont fumé quoi? Et là, c'est l'inverse, c'est au début, t'as le concept, quand tu vois le Zouvi et tout, mais c'est quoi ce truc? Et après, ça... C'est plat en fait, tu t'aperçois vers la fin, après t'as la morale sanguinolente, voilà, dégoulinante plutôt, sanguinolente c'est pas pareil, il y a quand même des bonnes surprises, t'as une scène à hurler de rire, je crois que Sabrina elle s'en souvient toujours parce que là on l'a vu il y a 2-3 jours, elle en parle encore, elle est pleurée aux larmes tellement c'est rigolo, c'est la scène dans la bande-annonce la plus rigolote du film où Orton qui essaie désespérément de traverser un pont au-dessus du vide et il dit je suis léger comme une plume, en matière d'animation, on peut se figurer comment ça peut être rendu un éléphant qui essaie de se rendre aussi léger qu'une plume. Il y a pas mal de trucs à faire avec la trompe et je vous en dis pas plus. Donc c'est assez rigolo sur ce point. Orton, ça fait passer un bon moment. Surtout, c'est le décalage entre l'animal le plus gros, un des plus gros qui existe, avec la poussière la plus petite qui existe. Donc c'est assez rigolo. On a quelques scènes aussi au niveau visuel assez poétiques, assez bien foutues. Ça vaut sûrement pas les Pixar, mais c'est quand même ça vaut quand même le détour. Donc c'est Orton, petit film d'animation sympa avec un éléphant mignon, une ville rigolote, inventive, etc. et des gueules bien sympathiques malgré justement un caractère design inégal dans l'ensemble. Et c'est produit par la Fox, ça s'appelle Orton et c'est sorti il y a 3 jours.
Ouais. Et la semaine prochaine, Chasseur de Dragons.
C'est sorti déjà Chasseur de Dragons.
Oui oui.
Et tu l'as vu ?
Non,
pas encore. Tu comptes le voir ?
Oui, oui.
Et qui lui est un dessin animé français.
Ouais, tiré de la bande de la bande animée hein, qui était diffusée par Canal J à un moment quoi.
Et je crois sur les chaînes hertziennes, Sabrina l'avait découvert là-dedans. Sachant que c'est tout à fait notre genre puisqu'on est dans les prochaines sorties cinéma, mais fin avril sort Iron Man avec Jeff Bridges, avec Robert Downey Jr., avec Gwyneth Paltrow. Voilà, donc je pense...
Mais un petit peu quand même.
On a pas dit genoux pourri, donne du sport. Et voilà, ça sera peut-être l'occasion de faire une spéciale Iron Man, puisqu'on a une BD de Derrière les Fagots à chroniquer et une interview à passer.
Ouais.
Voilà.
À doubler, merde. Zou, tout à fait autre chose. Midi 45 sur la poubelle des radios, FMR, c'est le supplément week-end.
Nip tuck.
Gagné. Introduction du sport.
Alors, chapeau pour le remix là. Hein. Vraiment, c'est pas mal.
C'est sur le CD de la bande son de la série. Il n'y a pas le morceau original, il n'y a que le remix. Il est monstrueux.
Ouais, pas mal, pas mal. Allez, un peu de télé à présent. Bah ouais, c'était Nip Tuck, hein, donc on l'a dit avant. Pour commencer, quelques émissions spéciales et parlons un petit peu de cet énergumène qui est Thierry Ardisson. Et qui fête ses 20 ans. En fait, ça fait un peu
l'homme
plus.
L'homme qui fait entre 1 et.
Tout à fait. Parce qu'en fait, on se dit que c'est vraiment Bain de Minuit qu'il a fait décoller, qu'il a fait vraiment connaître. Hein, et qui fait que, bah, en fait, cette année. Et après, un petit peu plus tard, Lunettes Noires pour une nuit blanche, c'est pour ça qu'on fait ça en 2008, quoi. Mais il a commencé en 84, hein, première émission. Bah, c'était plutôt une rubrique à l'intérieur d'une autre émission. Et c'était la déclinaison télé de ses descentes de police qu'il faisait déjà à l'époque, et un petit peu avant, hein, depuis le début des années 80, 82, 83, dans le magazine mensuel Rock et Folk, où justement ils interviewaient des personnalités pas forcément du monde de la musique. On se rappelle qu'à l'époque ils avaient défrayé un petit peu la chronique avec l'interview de Yannick Noah, qui à l'époque était joueur en activité, hein, et qui disait que bon ben il détestait pas de temps en temps fumer un petit joint, enfin boire un petit coup aussi tranquille, enfin bon, il avait détonné un petit peu, genre la langue de bois des sportifs à l'époque, c'était vraiment quelque chose de monstrueux. Et bon, Noah là, tout frais, tout à l'époque, il devait avoir 20 ans 21 ans, il défrayait un petit peu, ça avait un petit peu défrayé la chronique à l'époque. Et donc après Descente de police qui était diffusé par TF1 en 84, il y avait eu Scoop à la une en 85, mais enfin bon, ça n'a pas trop marché, la mayonnaise n'avait pas pris du tout. Et il a fallu donc attendre 87 et les Bains de Minuit sur la 5 pour que Ardisson se fasse un petit peu connaître, puis surtout avec son retour sur la deuxième sur la chaîne 2, oui. Qui s'appelait à l'époque Antenne 2, pour ce fameux Lunettes Noires pour une nuit blanche, qui a pas duré si longtemps que ça, hein. Ça a duré que 2 ans en fait. En 90, c'était Les Zèbres, toujours sur Antenne 2, puis Double Jeu en 91-93, puis Info Intox en 91 sur Antenne 2. Je sais pas s'il a tué le chien. Non, parce que bon, il y avait un gag justement, quoi, et le pistolet n'était pas chargé, enfin bon, il y avait un truc assez
foireux. Si jamais vous ne regardez pas, on tue le chien.
En 93, l'Ardimat, toujours sur Antenne 2, qui avait changé de nom et qui s'appelle toujours France 2. 94, ouais, alors celle-là.
L'Ardimat, il s'était planté là, non?
Oui, planté, ouais. Oui, beaucoup d'émissions ont planté, ou quelques émissions où il n'était que producteur, hein, aussi. Hein. Autant n'emporte le temps, alors là c'était un plantage monumental, et ça a été un petit peu, on va pas dire, ça a traversé du désert parce que il a rebondi dès l'année suivante sur Paris Première, hein, chaîne qui se montait, la nouvelle chaîne qu'on disait parisiano-parisienne à ses débuts, mais qui a su se débarquer, qui a su imprimer.
Parisienne, elle était diffusée très tôt dans d'autres réseaux câblés.
Oui, tout à fait. Ouais. Mais c'était une chaîne qui à l'origine ne devait s'adresser qu'à ce qui se passe à Paris, au niveau des spectacles, au niveau de toutes les manifestations. Et ils ont su bien déborder, c'est pas mal, hein, avec surtout justement un choix un petit peu pertinent des chroniqueurs. On se rappelle qu'il y a eu également Jean Edernalier qui a participé un petit peu à la création de cette chaîne. Et Ardisson également, avec tout d'abord Paris Dernière, hein, une émission qui existe toujours, hein, et qui a été créée en 95, et ensuite l'émission qu'il a fait vraiment plus connaître, de 97 à 2004, Rive Droite, Rive Gauche, sur Paris Première. Puis entre temps, comme c'est un homme avisé, surtout au niveau des pépettes, il avait produit et réalisé jusqu'à ce que ça puisse plus se faire, et donc il avait dû choisir, hein, on se rappelle, il y a 2 ans il a dû choisir entre les deux chaînes, il ne pouvait plus travailler pour les deux chaînes, France 2 et Paris Première. Tout le monde en parle, ça date quand même de 98, hein, ça fait quand même 10 ans maintenant, quoi, que cette émission existe. Entre temps, il y a des émissions qui ont moins. Tout le monde en parle, Laurent Ruquier maintenant qui a repris.
Oui, mais c'est un autre nom. Non,
oui, ça s'appelle On n'est pas couché.
Ouais, on n'est pas couché, mais enfin bon, c'est la même chose, quoi, en fait. Grosso modo, il n'y a pas de problème, hein. De toute façon, c'est produit
ça
par le même, ça a la même réalisatrice. Laisse tomber, quoi. Entre temps, il y avait également des émissions qu'il a proposées qui n'avaient pas trop marché. En 2003, tribu sur Paris 1ère 93 Faubourg Saint-Honoré sur Paris 1ère donc avec le concept je vous invite à bouffer chez moi
oui, c'était son ancienne adresse
voilà il avait passé d'ailleurs le relais quand il avait pu faire les deux choses, c'est-à-dire travailler pour les deux chaînes, il avait passé le relais à quelqu'un d'autre, il y avait également Opinion Publique sur France 2 qui avait une émission sans lendemain, et actuellement ben c'est Salut les Terriens depuis 2006 sur Canal+. Alors Ardisson, on vous propose pas des soirées de commémoration, non, ça fait un petit peu personnage des amours, mais plutôt récapitulatif de sa carrière. Tout d'abord sur Canal+, le Salut les Terriens de ce soir à 19h20 est un spécial Ardiversaire avec en fait la réunion de tous ceux qu'il a promu à l'antenne, à savoir qui ont eu leur propre émission, qu'il a fait découvrir. Alors c'est Bollock, Solo, Baffi bien sûr, Christine Bravo,
Ruquier,
qui c'est qui est encore, Maïtina Biraben, Yvan Le Bollock, je l'ai déjà dit, ouais. Bruno Solo,
Eric Kerambi peut-être, ils étaient.
Non,
ils avaient déjà un one man show.
Frédéric Tadei bien sûr, Paris dernière. Tout ça donc c'est ce soir à partir de 10h20 sur Canal+. Et pratiquement en même temps sur Canal Jimmy ce soir, deux émissions. Tout d'abord à 20h45, un documentaire de presque deux heures. Hein. En fait c'est deux parties qui ont été réunies. 20h45, en Ardisson, 20 ans d'antenne de Philippe Kiefer et de Marie-Ève Chomard. Et à 22h45, rediff de l'émission mythique, maintenant culte, Lunettes Noires pour une nuit blanche, avec Gainsbourg comme invité. Et pour ceux qui n'ont jamais vu, ça vous coûte quand même de voir la déglingue de Gainsbourg. Et puis son sens de la répartie, c'est assez rigolo quand même. Donc tout ça à propos d'Ardisson. À présent, un petit peu de séries. Et des séries, bien, surtout sur Série Club. Alors je vais pas revenir sur le fait que cette chaîne a beaucoup déçu. On avait beaucoup plus d'espoir au vu de ce que la chaîne pouvait proposer à ses débuts. Il faut dire que c'est un petit peu devenu un espèce de dépotoir pour les chaînes, pour les séries que TF1 a acheté mais n'a pas réussi à caser.
Allez, fraîche ma série, elle se vend au kilo. Il y a trois pommes pourries. Allez, tiens, hop, à la poubelle.
Alors ce n'est que rediff sur rediff. Et de temps en temps, comme ça, une petite série qui apparaît, qui est un petit peu sympathique. Mais jamais de grosses révélations comme ça avait été le cas il y a 7 ans, 10 ans, avec Oz par exemple, des petits trucs comme ça. Là, il faut se contenter un petit peu du tout venant. Et de temps en temps, chaque année, en fait, des screenings de Série Club, dans laquelle, c'est pas compliqué cette année. 9 séries complètement inédites vous sont proposées, réparties sur 2 soirs, jeudi et vendredi prochain. Et il faut choisir, il faut voter pour savoir quelle sera la série qui sera programmée à partir de septembre prochain en version originale et en complète inédit. Alors ça commence jeudi prochain. Alors il y en a vraiment de tous les genres, et en plus ça couvre un spectre au niveau chronologique qui est assez grand, on va dire. Ça commence jeudi prochain à 20h45 avec Stacked de Steven Levitan, que je me rappelle plus, mais qui avait connu plusieurs séries soap, on va dire comédie soap à succès. Steven Levitan 2005 avec le retour de Pamela Anderson.
Ouais.
Et également au niveau du casting, Christopher Lloyd. Quand même. Et dans lequel le pitch est assez simple, c'est l'histoire d'une jolie jeune femme, devinez laquelle,
Pamela.
Voilà, qui renonce à sa vie de débauche et qui se fait embaucher dans une librairie tenue par deux jeunes frères. Voilà, ça c'est le pitch de départ. Et en fait, c'est un sitcom, de toute façon, quoi. Ensuite, toujours jeudi prochain à 21h15, Veritas, The Quest, dans lequel on apprend qu'un adolescent rebelle découvre que son père préside une fondation chargée de résoudre des énigmes, genre Indiana Jones, un truc comme ça et tout. Celle-là, elle est assez récente, elle date de 2003, alors que Stacked, ça date de 2005, quand même. Et ça a l'air sympathique, c'est un petit peu Indiana Jones, mais plus dans le domaine du polar, on va dire, quoi. À 22h10, Great Scott, de 92. Alors là, également, c'est de la sitcom, hein, avec, comme particularité, bien, de découvrir un petit peu, pas les débuts, mais, la contribution de Spider-Man à la série sitcom, à la sitcom télévisée. Tobey Maguire dans Great Scott, une série qui date donc de 92. Il est en compagnie de Lancey Lennern. Hein, c'est jeudi prochain à 22h10. Et je rappelle que toutes ces séries sont diffusées. C'est tous les pilotes, hein, de ces séries qui sont diffusées. Et toutes sont diffusées en version originale sous-titrée. À 22h40, on termine avec la quatrième série de ces screenings de Série Club. Ça s'appelle The State Within et ça a l'air d'être la série la plus intéressante de cette soirée du jeudi prochain. C'est anglais, genre thriller, avec Jason Isaacs, qu'on avait déjà vu dans une autre série dont je me rappelle pas le titre, sur la mafia irlandaise de l'autre côté, du côté de la grosse pomme. Je me rappelle pas le titre. Là, ça a l'air assez prenant quand même. C'est pas vraiment une série, c'est plutôt une mini-série car il n'y a que 6 épisodes, donc de State Within, qui sera diffusé jeudi prochain à partir de 22h40. Ça reprend de plus belle le lendemain, vendredi soir à 20h45, avec tout d'abord First Monday, qui aurait pu être une bonne découverte de ce côté-ci, comme de... Et là, c'est marrant parce que je m'entends plus. Ah voilà, c'est revenu. First Monday, qui est quand même produit par un producteur haut de gamme. On lui doit de gros succès. C'est Donald Pelissario, fraîchement dégagé de NCIS. Hein, c'est lui qui l'a créé quand même. Don avait donc fait cette série un petit peu haut de gamme sur un sujet un petit peu austère, mais le feeling voulait qu'à l'époque, eh bien, on se démarque un petit peu des modèles habituels de série et qu'on essaye de tâter des sujets un petit peu plus durs, un petit peu plus âpres comme ça. C'est le cas de First Monday qui raconte, eh bien, l'histoire d'un juge qui est nommé à la Cour suprême des États-Unis. Et donc, au fait de pouvoir bosser à la Cour suprême des États-Unis, en fait, ce sont 7 juges qui sont nommés.
À vie.
Pas à vie, hein. C'est-à-dire que bon,
Si, c'est à vie. La Cour suprême est à vie.
Il me semble, mais ils peuvent démissionner, quoi. Enfin bon.
Il y a pratiquement pas eu de démission, mais là.
Voilà. Et donc, ils sont chargés de faire respecter. Le bon respect des lois, en fait, tel qu'il est pratiqué dans l'ensemble des tribunaux du pays, des États-Unis.
C'est à la fois le Conseil constitutionnel et,
voilà,
et la Haute Cour de justice.
Voilà, ouais. C'est eux qui prennent les décisions définitives, on va dire. Et avec un casting haut de gamme, dont Joe Mantegna, James Garner, Charles Durning, enfin bon, ça, la série qui devait marcher, mais qui n'a pas du tout marché, qui a même été annulée avant le choix. Donc il n'aura que 8 épisodes. Si vous votez pour cette série, qui sera diffusée à partir de 20h45 vendredi prochain sur Série Club. C'est suivi par la sitcom, et là la sitcom discrimination positive, ça s'appelle Girls Friend, avec que des blacks et que des blackettes, avec Tracy Ellis Ross, avec Golden Brooks et avec Jill Marie Jones, entre autres, histoire de pérégrination amoureuse, sentimentale, de 4 copines black dans la culture black. C'est à 21h35. C'est suivi à 22h de Mork and Mindy. Alors, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais Mork est un personnage vraiment bizarre qui est tombé, alors c'était un petit peu la fin de la série, qui est une série mythique, hein, des années 70, Happy Days, et vers la fin, vers la 8e, 9e saison, il y a une paire d'épisodes, on voit apparaître un alien, je sais pas si vous vous rappelez, vous avez pas vu ces épisodes, et l'alien est interprété par Robin Williams.
Oh là là.
Et,
non.
Ah ouais, si. Ah ouais, si, je te jure. Et c'est un alien qui débarque sur Terre, on sait pas trop comment, et donc il raconte que des vannes foireuses et il se fout de la gueule de tout le monde et tout, enfin bon, c'est assez rigolo. Et le personnage a tellement bien marché dans Happy Days que on a décidé d'en faire une série qui s'appelle Mork and Mindy, donc, et qui date de 78, interprété donc par Robin Williams dans le rôle principal et par Pam Danbert. Ça passe vendredi prochain à partir de 22h. Ensuite, il y a Suburban Shootout à 22h35 avec Anna Chancellor. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est genre comédie également. Mais ça se passe en Angleterre, mais ça fait un petit peu genre Desperate Housewives, un petit truc comme ça. Et à 23h, Sex, Love and Secrets, qui est également de la sitcom, on va dire la sitcom haut de gamme, hein, on va dire plutôt genre Dawson, enfin sitcom genre Dawson, tu vois, comédie sentimentale, des trucs comme ça, avec casting haut de gamme également, Eric Balfour, Denise Richards. Et l'histoire d'une bande de jeunes presque trentenaires, hein, qui se demandent ce qu'ils vont faire de leur vie, comment ça va se passer, où en est le sexe et tout ça. Mais ça a l'air d'être de bonne tenue quand même. Ça clora donc ces screenings de Série Club vendredi prochain à partir de 23h.
Comme disent aux guignols, des trentenaires qui veulent pas s'engager.
Ouais. Alors vite fait, si vous ne l'avez pas vu sur W9, bien jetez-y quand même un coup d'œil, ça vaut le coup. Moi je vous dis franchement, il y a quelques passages quand même dans la série qui sont vraiment très très drôles, c'est pas mal, le ton est assez léger. C'est Kyle XY, ça passe à partir de ce soir sur M6. KLXY sur M6 à partir de 20h50 à raison de 3 épisodes à la suite. Mais bon, ça vale quand même assez bien, c'est assez léger et tout. Et bon, il y a Nick Lee dans le rôle du méchant, alors bon, tu vas voir,
oui,
c'est
Krychek,
ouais, Krychek. Non, c'est pas mal, il y a quelques situations qui sont bien, qui sont bien cocasses et tout, c'est rigolo, quoi. Donc c'est ce soir sur M6 à 20h50, Kyle XY. Sinon, dans le registre de la déconne pure et dure, petit souvenir à l'occasion du 20e anniversaire de sa mort, putain, je fais des nécros là en ce moment, tu vois, à fond, hein. Paris Première vous propose mercredi prochain une spéciale des proches. Alors ça commence à 20h55 avec la minute nécessaire de Monsieur Cyclopède.
Grandiose.
À 21h, le petit rapporteur, le premier, en 75,
merde,
avec la fameuse interview de François Sagan, qui était pété de rire dessus et tout. Enfin bon, c'est à 22h15, des proches, seul en scène, donc un de ces one man shows. Il n'en a pas fait tant que ça, il en a fait deux ou trois, hein. C'est pas,
ouais,
c'était
mais
pas
ils
un
ont
mec
tous
de
été
scène
captés
en plus, hein. Et à 23h15, alors ça c'est un monument, hein, c'est sa participation à 30 millions d'amis, non, c'est véridique, 350 cochons et moi. donc c'est une soirée Pierre Desproges, spéciale Desproges sur Paris Première. Mercredi prochain, et comme on est dans les commémorations et tout ça et tout, sachez que demain, hein, ce sera le 82e anniversaire de la naissance de Jill Kane, le créateur de Spider-Man et de Green Lantern.
Oh merde.
Eh ouais, c'est demain le 6 avril. Il est né,
je me sais fesser.
Né le 6 avril 26. Ensuite, je termine avec une petite semaine de télé sur... Alors là, c'est un peu plat quand même, sur 13ème rue.
D'accord, ok, ambiance polar. Vas-y, continue.
Vas-y, fais la transition. Ce soir, à 20h45 sur 13ème rue, donc, Comme deux gouttes d'eau, un téléfilm de Stéphane Courc de 2006, avec Mathias Micus, Florence Thomassin, Vanessa Larré, l'histoire de deux bébés qui ont été changés, quoi, voilà. À 22h, danger immédiat, ouais.
Ah, c'est Pierce Brosnan, non ?
Non, c'est plutôt franco-suisse, enfin, tout comme ça, quoi. Demain à 20h45 sur Paris, sur 13ème rue, Toute peine confondue, le film de Michel Deville de 91 avec Jacques Dutronc, Patrick Bruel, Mathilde Amet, suivi à 22h55 de Big Hit de Kirk Wang avec Wahlberg, Diamond Phillips, Avery Brooks, Christina Applegate.
C'est nul.
C'est génial, c'est grandiose.
C'est nul.
C'est excellent. Avec en plus le petit clin d'œil et tout aux éditions Trauma sur la fin, quoi, quand ils se battent dans le vidéoclub et tout, quoi. Oui. Eh ouais. Lundi, toujours sur 13e rue Boston Justice, alors qui s'appelle Boston Justice en France, mais normalement la série s'appelle Boston Legal aux États-Unis. La saison 1, l'épisode 10 à l'épisode 12 de cette première saison, qui en compte 17, suivi à 23h10 de The Shield, la saison 4, épisode 2 et 3 de la saison, qui en compte 13. Si ça vous intéresse pas, il y a également Kickboxer sur AB1.
Toujours bien.
Lundi,
c'est génial.
Lundi prochain à 20h45.
Vainqueur, le palmier.
Mardi à 20h45, Fabien Cosma. Ah, de Bruno Gantillon 2006. Le téléfilm s'appelle Grain de sable, hein, avec bien sûr Fabien Cosma interprété par Louis-Karim Nebati. Suivi à 22h30 de Boston Justice, la rediff des épisodes diffusés la veille. Sinon, il y a. j'ai pris un petit échappatoire quand même et tout, parce que bon, quand même, faut pas pousser quoi, tu vois. À 22h30, mardi prochain, il y a également New Police Story de Peng Chan. Ouah!
Super.
Avec Jackie Chan et Nicolas Tse, dont on parlait il n'y a pas si longtemps,
oui,
que ça,
oui,
dans
oui.
La rubrique des faits divers. C'est sur Ciné Cinéma Premier, mardi prochain à 22h30. Mercredi prochain sur 13ème rue, Crash Zone, une émission sensationnelle présentée par Nathalie Vincent, où elle présente des extraits de vidéos amateurs, de trucs avec des crashs improbables et complètement nuls. Genre j'arrête avant la fin, qu'est-ce qui va se passer, faites un SMS, tu vois le genre quoi.
D'après vous, le bébé va passer au broyeur, va tout simplement se ramasser la tête par terre.
Alors par contre, à 22h25, il y en a un qui peut s'avérer intéressant, la réunion improbable mais qui peut être efficace, dans Opération Eagle One de Henry Crum de 2006 avec Marc Dacascos et Jeff Fahey. Ouais, et Teresa Randall. Sinon, il y a également Le chat qui vient de l'espace de Norman Tokar.
Le retour
sur Disney
de la...
Cinémagic. Mercredi prochain à 20h30. Jeudi prochain à 20h45 sur 13e rue Secret d'État avec Sharon Stone, Rupert Everett, suivi à 22h30 de Shining, le Shining de Kubrick.
Ouais.
Sinon, il y a sur NT1 jeudi prochain à 22h35. Universal Soldier, ouais. Il y a également 22h40 jeudi prochain sur TF6 Black Mask 2.
Non.
Avec Tracy Lord.
Quelle bouse.
Ouais, mais il y a Tracy Lord.
Ouais, mais c'est naze.
Il y a également jeudi prochain.
Elle est dit naze.
Jeudi prochain sur AB1 à 20h45.
Oups.
Ou vendredi prochain sur RTL Kickboxer 2. Le successeur, Sacha Mitchell, bien sûr. Et il y a également Rapid Fire, jeudi prochain, sur Ciné Cinéma Frisson, à 20h45. Le vrai, l'original.
Brandon Lee.
Avec Brandon, bien sûr. Tout ça, jeudi prochain. Et vendredi, ben, calme plat, quelques épisodes de New York District, saison 14, 2. Et suivi d'émission, l'effet Carl Zero, une enquête sur l'ordre du Temple solaire.
Dieu, du sport a fini.
Bah
Thomas,
ouais.
Peux-tu faire le résumé pour ceux qui ont pris l'émission numéro 152 du supplément week-end en cours de route?
Attends, je mets les feuilles du sport dans l'ordre.
Bonne chance.
Alors.
Non, moi je numérote, tu vois.
Ouais, mais non, parce que t'as plusieurs feuilles qui s'appellent numéro 1 et numéro 2. Bon, aujourd'hui, il se trouve que c'était bien numéroté, mais t'as la dernière qui est pas numérotée.
Non, mais c'est les films, ça.
D'accord. Alors, aujourd'hui, vous avez raté, entre autres, une émission en direct du côté obscur, un plantage de jingle, un plantage d'éclairage. On a découvert la vue supersonique, on a eu, by Jove, le retour de Blake et Mortimer, du John Woo sans gunfight, un éléphant et une poussière qui n'est pas une chatte, de l'ardiversaire, du déproche, le retour du tocard du chat de l'espace et un jingle naze.
Nom d'un clip de Rick Astley, ils ont marqué tout ça. Heureusement, ils peuvent réécouter l'intégralité du supplément week-end de cette émission et de toutes les précédentes, avec les chroniques écrites, mais aussi fouiller dans nos archives, laisser vos commentaires, poser vos questions, gagner des BD. N'hésitez pas, il suffit d'aller tout simplement sur le site web de l'émission Supplément Week-end, sans accent ni tiré, supplementweekend.tk, ou vous cherchez sur Google Supplément Week-end FMR ou Supplément Week-end MP3 et vous tombez dessus. La suite des programmes sur FMR avec votre cahier sportif dans l'immédiat, et nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure et même fréquence, ça tombe bien, on la garde. Ciao, bye bye.
Ciao, ciao.